Ceci est une conversation avec Jean-Michel Valentin, docteur en études stratégiques et sociologie de la défense, spécialiste de la stratégie américaine et chercheur au Centre interdisciplinaire de recherche sur la paix et d'études stratégiques. Il est également essayiste et a publié récemment plusieurs livres qui traitent des liens entre la géopolitique et les crises écologiques, climatiques et énergétiques qui se développent. Les changements géophysiques et la crise biologique planétaire en cours sont autant de facteurs de bouleversement géopolitique rapide, massif et brutaux. Un nouveau paysage géopolitique et stratégique émerge, marqué par la combinaison du changement climatique et de ses effets systémiques, comme l'immigration de masse, la compétition mondiale pour les ressources et la crise des régimes contemporains. Dans cet épisode, j'interroge Jean-Michel sur sa vision des grands enjeux, alors que le phénomène climatique El Niño, notamment, nous fait expérimenter à quoi ressemble une planète dont la température moyenne dépasse déjà les 1,5 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. On parle du jeu des nations et des règles de la géopolitique, du nouvel ordre mondial qui se met en place, du pivot en cours au Moyen-Orient, des stratégies de la Chine pour sécuriser les approvisionnements pour l'avenir, de la place des États-Unis et de l'Europe dans cette bataille pour les ressources, de la nouvelle donne climatique et écologique, de l'anticipation par la Chine de ces nouveaux risques, de la crise de l'eau qui se profile aux États-Unis et dans le sud de l'Europe, et de la nécessaire anticipation de tous ces phénomènes par les nations. Cet épisode est divisé en deux parties, voici la première. Je suis Julien Devorex, Sismic est un podcast indépendant sur les grands enjeux actuels. Pour retrouver les notes détaillées et aller plus loin, abonnez-vous à la newsletter ou rejoignez le groupe Discord. Et je remercie au passage mes nouveaux donateurs et les donateurs passés et récurrents, bien sûr. Sans vous, ce podcast n'existerait pas, donc merci. Place à l'épisode, bonne écoute.
Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde, il vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite.
Bienvenue sur Sismic.
Rien de tout ça n'est réel.
Qu'est-ce que le réel ? Quelle est ta définition du réel ?
Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde.
Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence.
L'humanité est menacée dans ses fondamentaux.
Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre.
Bonjour Jean-Michel Valentin.
Bonjour Julien Devorex.
Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement ?
Alors, brièvement, je suis chercheur en études stratégiques. J'ai un doctorat en études stratégiques et ça fait 20 ans et 4 mois que je travaille sur les effets géopolitiques du changement climatique. Je dis 20 ans et 4 mois parce qu'en octobre 2003, le Pentagone a publié un rapport très étonnant qui s'intitulait Les effets d'un changement climatique abrupt sur la sécurité nationale américaine. Et à l'époque, on avait l'armée américaine en Irak, le président Bush et son vice-président Richard Cheney qui venaient de l'industrie pétrolière à la Maison Blanche. C'était donc quelque chose, un objet extrêmement étonnant qui apparaissait comme ça dans le paysage stratégique américain. Et je me suis mis à étudier la façon, en fait, dont l'appareil de défense et de sécurité nationale américain s'approprie, mais à très grande échelle, la question du changement climatique, de la biodiversité, des enjeux environnementaux en général. Et depuis une dizaine d'années, je travaille avec le think tank The Red Team Analysis Society. Et j'ai élargi mon scope, et c'est là que j'ai réalisé, avec une certaine stupeur, que ces questions de changement climatique, ressources et sécurité font l'objet d'une appropriation extrêmement forte de la part d'autres appareils de défense comme l'appareil russe, l'appareil chinois, toute la région Asie-Pacifique s'est aussi emparée de la question. Et je suis stupéfait depuis 10 ans. De voir à quel point en Europe,
y a rien.
On n'a pas l'air de se rendre compte vraiment de l'énormité des enjeux.
Bon, donc il y en a qui font bien de la prospective et d'autres moins bien, on va dire.
Alors c'est pas que de la prospective, c'est aussi y en a qui font l'expérience des choses.
Ok.
Par exemple, du côté américain, en 2005, quand l'ouragan Katrina a noyé la Nouvelle-Orléans. Les forces de sécurité américaines ont été dans la plus grande difficulté pour intervenir à la Nouvelle-Orléans, d'une part parce que ils étaient déjà en surcharge en occupant l'Irak et l'Afghanistan, d'une part, et d'autre part, les dégâts sur les voies de communication étaient tels que les matériels d'urgence ne parvenaient pas à arriver. Ce qui fait qu'on avait la Nouvelle-Orléans qui se noyait sous les caméras portées par les hélicoptères des télévisions du monde entier, et la sécurité civile et la défense américaine qui ne parvenaient pas à intervenir. Et de toute urgence, la Maison Blanche a fait intervenir la société Blackwater, donc des mercenaires, qui ont été la première force de réponse d'urgence dans la Nouvelle-Orléans. Et ça fait un choc absolument majeur au Pentagone, qui s'est mis à intégrer les enjeux du changement climatique à la formation des officiers, à la préparation stratégique, la préparation opérationnelle, la préparation tactique. Et on voit bien que il y a un certain nombre de grands ministères de la Défense qui croisent cette expérience pratique du changement climatique avec des travaux théoriques extrêmement approfondis. On a vu la même chose, la même dynamique entre théorie et pratique en Russie. À la fin de la première décennie des années 2000, l'Académie des sciences russes a remis un rapport au Kremlin sur les effets du changement climatique pour la Russie. Et la réponse du Kremlin et du ministère de la Défense, ça a été de commencer à ouvrir une nouvelle voie maritime qui va du détroit de Bering à la Norvège, la route maritime du Nord, qui est en train de permettre un nombre croissant de cargos et de convois venus d'Asie, en particulier de Chine, d'atteindre l'Atlantique Nord. Et l'Atlantique Nord, c'est pas intuitif de considérer cette région comme étant reliée à l'Asie. Mais avec cet autre exemple, on voit comment les travaux scientifiques pris très au sérieux par des autorités politiques aboutissent à des changements géopolitiques qui sont très importants et, j'insiste là-dessus, très rapides.
Ben on va essayer de délier tout ça. J'aime bien commencer par la théorie un peu. Et j'essaie de comprendre au-delà des événements justement quelles sont les grandes tendances actuelles et quelles sont les structures qui font émerger ces tendances. Et parmi ces structures, il y a le jeu des nations, il y a le jeu de pouvoir avec des problématiques de conquête de territoire, d'approvisionnement, etc. Et puis de sécurité interne. Comment est-ce que vous décririez les règles du jeu des nations qui sous-tendent ce qu'on va appeler la géopolitique, en fait? Quels sont les intérêts que les uns et les autres cherchent à préserver, cherchent à obtenir, qui est quelque chose qui nous vient de loin, mais qui va nous permettre d'avoir une lecture, d'avoir de la hauteur de vue sur ce qu'est la géopolitique? Qu'est-ce que les nations cherchent à faire?
Les nations, je vais emprunter le terme à Hegel, les nations, elles cherchent à persister dans leur être. Et pour ce faire, elles cherchent à promouvoir leur intérêt national au niveau international. La géopolitique, c'est ça. C'est les interactions au niveau international des différents intérêts nationaux. Et ensuite, ces interactions, elles peuvent se faire de façon politique, diplomatique, par le biais des échanges commerciaux, où elles peuvent intégrer des jeux de coercition ou l'usage direct de la violence par le biais de la force armée. Et puis évidemment, il peut y avoir un peu des mix de ces différentes affaires. Votre question me fait penser à une anecdote qui remonte au début de l'année 2000, quand le président George Bush Jr. venait d'être élu, et où il cherchait à se donner une carrure internationale, et il cherchait un peu du conseil. Et il cherchait ce conseil notamment auprès de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite à Washington, qui lui avait répondu: « Monsieur le Président, il faut que vous soyez conscient que là-dehors, c'est-à-dire dans le monde des relations internationales, dans le monde de la géopolitique, là-dehors, c'est un coupe-gorge. » C'est pour ça que il me paraît extrêmement important d'avoir une vision des relations internationales sous l'angle de ce qu'on appelle l'angle réaliste, c'est-à-dire que ce qui va gouverner le positionnement, le fonctionnement des nations au niveau international, ça va très souvent être le calcul de leur intérêt national par rapport à ce qui se passe à un moment donné.
Mmh. Ce qu'on a appelé la réalpolitik.
C'est la réalpolitik et quoi qu'on en dise, quoi qu'on en veuille, c'est le règne du rapport de force.
Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas.
Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas.
Alors on parle de plus en plus d'un nouvel ordre mondial qui se met en place et qu'on serait à une période vraiment charnière où tout ça est en train de bouger parce qu'il y a des rapports de force, qu'il y a des puissances montantes comme la Chine qui monte depuis quand même plusieurs décennies et qui arrive maintenant dans une position à pouvoir concurrencer la puissance principale du monde qui sont les États-Unis dans plusieurs domaines. On voit ce qui joue aussi au Moyen-Orient, avec l'affirmation de l'Arabie Saoudite, avec l'Iran aussi qui essaie de jouer ses cartes, et puis voilà. Il y a la Russie, il y a le club des BRICS qui commence aussi à vouloir un peu s'émanciper au niveau monétaire, au niveau de l'énergie, etc. Quel est l'état, en fait, de ce grand échiquier mondial aujourd'hui? Est-ce que, effectivement, on est à la croisée des chemins?
En tout cas, on est sur un profond changement de paradigme. C'est-à-dire que, moi j'ai envie de dire que on est en train de connaître la fin de la globalisation telle que nous l'avons connue. Vous avez évoqué la Chine, la montée des BRICS, etc. Mais j'aime bien l'idée de chercher quelque chose d'un peu structurant. Or, les BRICS, donc l'association de pays, on va dire, c'est pas une organisation internationale, hein, l'association de pays, donc Brésil, Russie, Inde, Chine, au départ, c'est ça les BRICS. Bien, en fait, si on regarde de près et si on regarde les pays qui ont rejoint cette association en septembre dernier, c'est-à-dire l'Argentine, l'Iran, l'Égypte, je crois le Kazakhstan, c'est à vérifier.
L'Afrique du Sud aussi.
Et l'Afrique du Sud, absolument. Enfin, l'Afrique du Sud, c'est un des membres fondateurs. Mmh, en fait, c'est un monde de producteurs. Mmh. De producteurs de matières premières, un peu à l'exception de l'Égypte, mais qui a un tel rôle au niveau international en tenant le canal de Suez que c'est tout à fait cohérent. Et en fait, alors que la globalisation telle qu'elle a été développée depuis les débuts des années 90 était le règne du consommateur, moi je me demande vraiment si la montée en puissance des BRICS ne pourrait pas se comprendre comme la revanche du producteur. Ce qui serait assez cohérent dans un monde où un certain nombre de ressources naturelles ne sont plus illimité, mais où, au contraire, on commence à arriver dans des zones où il va falloir compter, calculer, et où la capacité de charge planétaire et la capacité d'extraction ne peuvent plus être considérées comme infinies. Partant de là, ce qui est tout à fait fascinant à observer, c'est par exemple l'émergence du grand partenariat stratégique entre la Russie et la Chine, avec la Chine qui a passé un accord commercial absolument gigantesque avec la Russie en octobre dernier, de façon à garantir notamment ses approvisionnements agricoles.
Mmh. Et pour plus de 10 ans, c'est ça, oui.
Voilà. Et moi, ce qui me frappe, c'est à quel point les relations internationales aujourd'hui sont en train de se restructurer à toute vitesse autour du thème, en gros, qui alimente qui en ressources.
Et est-ce que ça, c'est vraiment nouveau? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que finalement, même dans un monde où peut-être il y avait plus d'abondance, il y avait déjà un souci, notamment de la part des États-Unis, pour qui ça a été assez central dans leur politique étrangère, de sécuriser les approvisionnements en pétrole, par exemple, ou d'avoir la main sur certaines ressources. C'est-à-dire qu'on est dans cette même logique dans laquelle, en fait, il faut se souvenir que les ressources sont essentielles, Mais dans un monde où les ressources deviennent de plus en plus rares, ça devient central dans la stratégie des nations, c'est ça ?
Alors, il y a ça, mais surtout, il faut se rappeler que en ce qu'on appelle un peu rapidement l'Occident, c'est-à-dire l'Amérique du Nord et l'Europe, la globalisation s'est traduite par la désindustrialisation. Et donc, notre capacité de transformation des ressources, on l'a faite partir dans un certain nombre de pays qu'on appelle en développement ou du tiers-monde ou ce qu'on veut. Sinon qu'aujourd'hui, ce que l'on voit avec la recomposition des équilibres géopolitiques, c'est qu'il y a un rapprochement extrêmement fort entre les zones récemment industrialisées, comme la Chine, et les grands producteurs de matières premières et de ressources énergétiques. Par exemple, je suis extrêmement frappé par l'évolution très rapide qui a lieu au Moyen-Orient, où on voit les pays du Golfe Persique et l'ensemble des pays du Moyen-Orient qui se réorientent très vite et très puissamment vers la Chine. Pour vous donner quelques exemples, 50% du pétrole irakien part en Chine, 25% du pétrole saoudien part en Chine. L'Iran vient de passer un accord bilatéral avec la Chine sur 25 ans avec des exportations massives de pétrole iranien vers la Chine, etc. Cette évolution, elle va aussi avec le fait que les États-Unis sont redevenus producteurs et exportateurs de pétrole et que donc ils achètent beaucoup moins de pétrole au Moyen-Orient.
Oui, ils ont un peu lâché leur la bride, entre guillemets.
Ils lâchent énergétiquement le Moyen-Orient, ils restent très présents politiquement et militairement. Ce qui là aussi évidemment est facteur de tension. Et vous évoquiez la problématique de l'ordre mondial. On peut très bien analyser ce qui se passe aujourd'hui comme la lutte entre une forme d'organisation du monde héritée de la fin de la guerre froide des années 90 et de la globalisation centrée sur les États-Unis, qui fait face à une autre proposition d'organisation du monde qui est centrée beaucoup plus sur l'Asie, le Moyen-Orient et ce que j'appelle les alliances de producteurs.
Mmh. C'est vrai qu'on reste un petit peu là-dessus pour peut-être avec d'autres exemples pour qu'on voit à quel point la donne est en train de changer, et peut-être notamment en parlant des relations entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite qui sont en train de basculer comme un symbole, et peut-être parler de ce qui se joue aussi dans la région avec ce conflit. C'est deux sujets différents, mais comment tout ça en fait s'alimente et se percute.
Oui, alors question percussion, effectivement, c'est assez impressionnant. En fait, j'aime bien partir de cas concrets. Et moi, j'étais très frappé en voyant, c'était le 7 décembre 2022, par la visite du président Xi Jinping, donc le président de la République populaire de Chine, à Riyad, qui a reçu un accueil absolument extraordinaire, royal dans tous les sens du terme, avec ensuite des signatures de contrats extrêmement étonnantes. C'est-à-dire, bon, pour plusieurs dizaines de milliards de dollars d'achats de pétrole par la Chine, j'ai envie de dire ça, c'est normal, c'est classique hein, quand on va en Arabie Saoudite. Et les Saoudiens, passant pour 30 milliards de dollars de contrats pour le développement de l'intelligence artificielle en Arabie Saoudite, avec des technologies chinoises. Et en faisant largement entrer le géant de l'intelligence artificielle chinoise Huawei dans les contrats. Et en fait, ce qui se joue, c'est que l'Arabie Saoudite, de même d'ailleurs que les Émirats Arabes Unis, utilise la rente pétrolière et gazière pour développer l'intelligence artificielle et pour développer aussi l'industrie des énergies renouvelables, de façon à ce que quand, dans une quarantaine d'années, le pétrole et le gaz ont été assez largement épuisés, eh bien, les puissances du Golfe Persique restent des puissances dans le domaine énergétique, tout en s'imposant donc sur les nouveaux marchés énergétiques qui vont émerger à ce moment-là. Et il faut vraiment voir la place qui est donnée à l'intelligence artificielle par ces pays dans leur propre transition énergétique. Et en fait, ce qui est en train d'émerger littéralement sous nos yeux, c'est une espèce de, alors je vais dire bloc, mais c'est pas le terme que je voudrais
employer. Alliance, oui.
C'est encore autre chose, mais une espèce de, on va dire, de bloc énergético-technologique qui relie de façon étroite et très matérielle la Chine avec le Moyen-Orient. Et ce qui fait que, en fait, tout le monde est en train de se mettre en situation de codépendance dans un univers où le traitement des ressources va être affiné encore et encore et encore, notamment avec l'aide de l'intelligence artificielle. Et cette codépendance, elle a lieu aussi entre la Chine et la Russie, avec la Chine, donc, j'évoquais, qui se met à importer de plus en plus de denrées agroalimentaires russes, mais qui importe aussi du gaz. Et le gaz va servir à développer le bouquet énergétique chinois, ce qui fait que les Chinois font suffisamment confiance à la Russie pour assurer une partie de son avenir énergétique. Et ce sont des choses qui se matérialisent aujourd'hui sous la forme de gazoducs, de contrats, etc. Et je m'inscris en faux par rapport à un certain nombre d'analyses qui disent oui, voilà, mais en fait, ils se méfient les uns des autres. Évidemment qu'ils se méfient les uns des autres. On est dans le domaine de l'international, tout le monde se méfie de tout le monde. En attendant, les contrats sont passés, les gazoducs sont construits et les Chinois consomment de plus en plus de gaz russe.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que, en fait, si on reste dans le prisme de lecture qu'on nous propose souvent dans les médias, on se rend pas compte de l'isolement progressif et augmentant de ce qu'on va appeler l'Occident, de l'Europe et des États-Unis par rapport à cette stratégie non occidentale, on va dire, avec notamment la Chine au centre. Puisqu'on voit que, par ailleurs, la Chine a aussi une stratégie de développement d'infrastructures pour sécuriser notamment ses propres approvisionnements qu'on appelle les nouvelles routes de la soie, qui comprend, je crois, plus de 130 pays, quelque chose comme ça.
Oui, au dernier compte, c'est-à-dire lors du sommet qui a eu lieu à Pékin pour l'anniversaire des 10 ans des routes de la soie, donc c'était, si je ne m'abuse, le 13 octobre 2023, plus de 130 pays étaient représentés, et puis des représentations de très haut niveau.
Toute l'Amérique du Sud, notamment.
Toute l'Amérique latine, une bonne partie de l'Afrique, de l'Asie, ainsi que de l'Europe du Sud.
Alors, est-ce qu'on peut parler de cette stratégie, justement, chinoise d'infrastructure?
Alors, en fait, depuis 2013, le gouvernement chinois a lancé donc cette grande stratégie dite des nouvelles routes de la soie, qu'on appelle aussi la ceinture et la route. Il s'agit en fait de construction de gigantesques infrastructures ferroviaires, aériennes et portuaires, qui traversent toute l'Eurasie, qui permettent aussi de joindre la Chine à l'Afrique de l'Ouest comme l'Afrique de l'Est, et à l'Amérique latine. J'insiste sur une chose, c'est que ces routes de la soie, elles ont une fonction très précise. Elles servent à faire arriver sur le territoire chinois les ressources dont la Chine a besoin. Elles ne servent pas à exporter, les Chinois exportent depuis le début des années 80, ils n'avaient pas besoin des nouvelles routes de la soie pour exporter. Les nouvelles routes de la soie, ce sont, moi j'appelle ça un canal. C'est un gigantesque canal à acheminer des ressources du monde entier en Chine. Et en Europe, ce canal, il va jusque en Serbie. Et en Europe du Sud, en Grèce, en Serbie, dans les Balkans, etc. La très grande majorité des ports d'Afrique de l'Est comme de l'Ouest sont désormais reliés à la Chine. Quelque chose de très intéressant, c'est ce qui se passe à Djibouti. Djibouti, historiquement, donc on avait une base de la Légion étrangère qui permettait donc de surveiller la mer Rouge. Puis il y a une quinzaine d'années de ça, il y a eu la construction d'une base américaine à côté de la base française. Depuis quelques années, il y a la construction d'une base chinoise à côté de des bases américaines et françaises. Cette base chinoise est aussi un port. Le port a été relié à l'Interland éthiopien par une voie de chemin de fer qui a été complètement réhabilitée. Et ça permet à l'Éthiopie de devenir un pays atelier, notamment de production de chaussures, qui sont mises en train, mises en bateau et envoyées en Chine en flux tendu. Et c'est là qu'il faut vraiment saisir à quel point la Chine a saisi que pour son développement intérieur, elle a besoin de ressources venant de l'extérieur. Et les nouvelles routes de la soie lui permettent de sécuriser son approvisionnement en ressources.
Alors comment est-ce que les États-Unis se positionnent par rapport à cette logique d'approvisionnement ? On sait qu'il y a une politique de réindustrialisation, en fait, il y a une prise de conscience qui a eu lieu il y a quelques années du fait qu'il y avait des dépendances stratégiques, même par rapport à Taïwan, qui est une zone à risque, etc. Et l'Europe. Est-ce qu'il y a des soucis, des stratégies pour s'approvisionner, pour contrer, pour ne pas se faire manger, entre guillemets, par... toutes les ressources par des concurrents, puisqu'il faut pas oublier qu'on a besoin de ressources.
Absolument. Alors, les États-Unis comme l'Europe ont mis beaucoup de temps avant de saisir l'ampleur de la stratégie chinoise. Parce que cette stratégie chinoise, elle se déploie à bas bruit. L'enjeu chinois, c'est de pouvoir promouvoir leurs intérêts à l'international, mais entre guillemets, sans se faire remarquer, c'est-à-dire sans déclencher de réaction adverse. Un exemple que je trouve particulièrement impressionnant, c'est la présence chinoise en Argentine, avec la réhabilitation d'un certain nombre de ports qui a été pris en main par des compagnies chinoises, et des systèmes de bateaux et de barges chinois qui remontent le Rio de la Plata et qui arrivent dans la zone industrielle, dans la zone, la grande zone de production agricole argentine, ce qui permet de récupérer les céréales argentines, de les ramener à bon port, de les remettre ensuite dans des vraquiers qui partent directement en Chine. En fait, il y a une chaîne logistique ininterrompu qui va de la zone agricole argentine jusqu'au grand port chinois. Simplement, ça se fait à bas bruit. Et pour Washington, eh bien depuis 1830 et l'établissement de ce qu'on appelle la doctrine Monroe, l'Amérique du Sud est censée être la zone réservée de l'influence américaine, sinon qu'en fait, désormais, l'ensemble des pays d'Amérique latine ont rejoint la route de la soie. Ce qui est très impressionnant, c'est que actuellement, par exemple, le système autoroutier colombien est en train d'être développé par des compagnies chinoises. Et pour moi, la prise de conscience du phénomène des routes de la soie par Washington s'est fait au milieu des années 2010. C'est à ce moment-là que les Américains ont commencé à calculer que l'interdépendance économique qui a été établie avec la Chine depuis les années 80-90 n'était plus tenable. C'est à ce moment-là que le président Trump a lancé la guerre économique et commerciale contre la guerre économique, pardon, et technologique contre Pékin, sachant qu'en cela, il était largement dans la continuité de la politique qui était tenue par Barack Obama, et qu'aujourd'hui, l'administration du président Biden est dans la continuité de ce que faisaient les présidents Trump et Obama. C'est-à-dire que il y a une tentative dure de rééquilibrage des relations avec la Chine, et d'une grande inquiétude par rapport à l'Amérique latine.
Et l'Europe ?
L'Europe,
par avoir perdu le port du Pirée,
ce qui n'est pas rien. Alors l'Europe, c'est très particulier puisque quand on parle de l'Europe, on parle à la fois de l'Union européenne et des différents États membres, ce qui n'est pas la même chose. L'influence chinoise et en particulier donc de la nouvelle route de la soie est particulièrement présente en Europe du Sud. Et ce qui est tout à fait significatif à mon sens, c'est que la présence chinoise donc se traduit donc par le rachat du port du Pirée, par la prise en main de la reconstruction ou du développement des réseaux routiers et ferroviaires d'un certain nombre de pays des Balkans, mais aussi en avril 2022, l'armée chinoise a fourni des batteries antiaériennes à l'armée serbe. Ces batteries antiaériennes qui font clairement référence au bombardement de l'ambassade chinoise à Belgrade en 1999. Et en fait, c'est cette présence chinoise dans les Balkans, elle a lieu alors que le conflit qui reste encore largement politique et non pas militaire entre la Serbie et le Kosovo est en train de remonter et que les forces de l'OTAN sont très présentes au Kosovo. Mmh. Donc en fait, on voit que les zones de conflit, les zones de tension sont en train de se multiplier à mesure que l'influence chinoise s'étend et s'inscrit et que Washington, ou plutôt les États-Unis, commencent à très sérieusement s'inquiéter et à réagir par rapport au développement de l'influence chinoise. Quant à l'Europe, quant aux États membres de l'Europe, les réactions sont... très complexe. Par exemple, la Chine travaille à devenir la grande puissance de l'intelligence artificielle d'ici à 2030. Pour ce faire, ils cherchent à développer notamment toute leur industrie robotique. Et en 2016, une compagnie chinoise a racheté KUKA. KUKA, c'était la principale industrie de production de robots allemande. Et après cet achat, le gouvernement allemand a réalisé que là, il y avait un gros problème qui était en train d'émerger, que c'était une entreprise stratégique qui venait d'être cédée. Et le gouvernement fédéral allemand a réagi en mettant au point une liste d'entreprises stratégiques qui ne pouvaient pas être cédées. En Italie, Giorgia Meloni, qui a été donc qui a été élue depuis un an et demi, revient sur l'adhésion de l'Italie à la nouvelle route de la soie, adhésion qui a eu lieu, si je me souviens bien, en 2015. Et donc, ce que l'on voit, c'est des réactions très diverses. En même temps, l'Union européenne aimerait bien attirer les investissements chinois en Europe, mais sans que ça fasse entrer l'Union européenne en dépendance. Donc, on est dans une période ambivalente, où tout le monde se cherche.
Et pour ce qui est de la sécurisation des matières premières, on sait par exemple que pour faire ce plan de transition énergétique qui est ambitieux partout, mais qui est aussi ambitieux en Europe, on a besoin beaucoup de terres rares, et c'est la Chine qui maîtrise la filière. On a des soucis, évidemment, d'approvisionnement en énergie fossile, qui reste encore actuel tant que cette transition énergétique n'est pas faite, avec des relations en Afrique qui sont plus forcément ce qu'elles étaient, et on a l'impression aussi qu'il n'y a pas forcément de politique européenne là-dessus. Donc comment est-ce que ces approvisionnements stratégiques se décident? Est-ce qu'on dépend des États-Unis, comme maintenant on dépend des États-Unis pour le gaz? Comment tout ça est en train d'être battu, et qu'est-ce qui est en train de se jouer en ce moment? Quels sont les théâtres?
Vous savez, si on prend un point de vue géopolitique et stratégique, j'aimerais reprendre votre question en disant comment se situe l'Europe dans le cadre de la guerre économique mondiale.
On peut la faire comme ça.
Et il faut vraiment avoir à l'esprit que depuis le début des années 90, et là je cite les travaux d'Ali Laïdi, qui est un de nos plus remarquables chercheurs en guerre économique, peut-être notre plus remarquable chercheur, qui met bien en évidence donc que depuis les années 90, l'appareil de sécurité nationale américain s'est largement reconverti dans le champ de la guerre économique. Il faut bien comprendre ce que c'est la guerre économique. La guerre économique, ce n'est pas une forme de compétition capitaliste un peu paroxystique. C'est de la guerre menée avec des moyens économiques. C'est-à-dire, c'est l'intérêt national américain qui utilise des formes militarisées d'activité économique. Un des plus récents développements de l'arsenal américain dans ce champ, c'est d'avoir passé de nouvelles lois extranationales qui permettent aux États-Unis de surveiller et de sanctionner tous les flux d'investissement qui entrent aux États-Unis, mais aussi tous ceux qui en sortent. Ce qui permet de surveiller et éventuellement de sanctionner non seulement des compagnies américaines à l'étranger, mais aussi les sous-traitants ou les pays qui vont travailler avec ces entreprises américaines ou qui les auront sur leur sol.
Ce qu'on appelle l'extraterritorialité du droit américain.
Du droit américain. Comment est-ce possible? Parce qu'ils sont capables. Parce qu'ils ont la puissance nécessaire pour l'imposer. Or, ceux qui ont particulièrement bien compris la stratégie de guerre économique américaine, et là aussi je cite Ali Laïdi, ce sont les Chinois qui passent des lois en miroir. Or, il faut se rappeler qu'en Europe, eh bien, le tissu économique européen est très largement lié au tissu économique américain et au tissu économique chinois. Ce qui fait que, potentiellement, des sanctions peuvent être prises contre un certain nombre d'entreprises ou de pays du fait de l'exercice de lois extraterritoriales américaines ou peut-être de lois extraterritoriales chinoises à venir. Et en fait, en Europe, j'ai quand même la nette impression que on a vraiment eu envie de croire qu'au début des années 90, c'était vraiment la fin de l'histoire, c'est-à-dire la fin de la phase la plus violente de l'histoire humaine. Et il y a quand même eu un désarmement militaire, mais aussi un désarmement stratégique.
Industriel.
Et un désarmement industriel. Et une forme de désarmement mental. Et on a beaucoup de mal en Europe à penser la violence du monde. Et je pense que c'est là qu'il y a un rattrapage à faire. Il y a un rattrapage assez rapide à faire, parce que si on n'est pas armé mentalement et
matériellement,
vu l'état du monde, on n'est pas pris aussi au sérieux qu'on pourrait l'être ou qu'on devrait l'être.
Est-ce que ce qui se joue dans le conflit entre Israël et Gaza et le Hamas est en train de rebattre aussi considérablement les cartes? Est-ce que c'est un accélérateur? Est-ce qu'on a un pivot? On voit que les États-Unis se sont positionnés de manière très ferme, notamment en envoyant des porte-avions au large de Gaza, donc en faveur d'Israël, que ça crée aussi beaucoup de tensions en interne aux États-Unis à la veille des élections. On voit que ça a chamboulé les relations aussi qu'ils pouvaient avoir avec tout ce qui était en train de se faire avec les accords d'Abraham, etc. Qu'est-ce qui est en train de se jouer, en fait, dans cette région? Est-ce qu'on assiste aussi à des cartes qui sont en train d'être rebattues devant nos yeux, ou alors est-ce que c'est finalement pas si important que ça en termes de géopolitique régionale?
C'est très très important en termes de géopolitique régionale, ce qui se joue avec la guerre de Gaza. Et je vous rejoins quand vous mettez l'accent sur le parapluie militaire américain que le Pentagone installe en gros depuis les côtes méditerranéennes israéliennes jusqu'en mer Rouge. Et ça fait déjà 2 mois donc que l'on voit les fameux miliciens houthis du Yémen qui sont devenus militairement très actifs, qui tirent des salves de missiles et de drones depuis le Yémen jusqu'en Israël, jusqu'à Eilat. Or, ces missiles et ces drones sont interceptés par les forces maritimes américaines, britanniques, israéliennes et françaises présentes en mer Rouge. Mais ce qui est à noter, c'est que, en fait, ce conflit maritime de basse intensité est en train d'avoir des effets très disruptifs sur la globalisation, avec les grands armateurs comme CMA-CGM, Evergreen ou Maersk, qui détournent leur
convoi
de la mer Rouge. Donc, ce qui rajoute plusieurs semaines de voyage. Il commence à y avoir un certain nombre d'entreprises dans les ports qui sont en chômage technique du fait des retards d'approvisionnement. Mais surtout, d'un point de vue militaire, ce que l'on voit, c'est une milice d'un pays quand même a priori très périphérique, très 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 pauvre, et cette milice bien équipée de gens qui font et menée par des gens qui font la guerre depuis 10, 15, 20 ans dans des conditions extrêmement dures, qui se réapproprie les tactiques des pirates de la mer Rouge et notamment des pirates somaliens et qui parviennent à avoir des effets de disruption absolument majeurs que les grandes flottes des principales armées au monde ne parviennent pas à arrêter. Et personnellement, je pense que c'est là que il faut vraiment regarder ce qui se passe, parce que toutes les puissances, en particulier les puissances hostiles aux États-Unis, sont en train d'observer ce qui se passe et d'observer que un déploiement de forces occidentales de grande échelle est en difficulté face à une milice qui use de tactiques asymétriques. Et là où c'est là où je pense qu'il faut vraiment tirer des enseignements de cette affaire, c'est que depuis quand même une grosse dizaine d'années, ces milices, ces acteurs non étatiques comme Al-Qaïda, comme ou les pirates somaliens ou les milices houthis sont en réalité observés de très près par un certain nombre de ministères de la défense non occidentaux qui voient l'efficacité des tactiques et des stratégies asymétriques et qui travaillent à les intégrer, mais à l'échelle d'armée nationale. C'est un chercheur en affaires militaires australien qui s'appelle David Kilcullen qui met en évidence que cette démarche d'étude de ce que font les acteurs non étatiques par des acteurs étatiques comme la Russie, la Chine et quelques autres, eh bien c'est le reste qui apprend à combattre l'Ouest. Et ce qui se passe là actuellement en mer Rouge, on peut se dire, bon, voilà, il y a un côté, c'est un peu un incident, il y a quelque chose d'un peu exotique avec cette petite milice, certainement soutenue par l'Iran, mais enfin, c'est a priori, c'est pas une force militaire majeure, mais composée de gens extrêmement durs, qui sont des guerriers qui survivent à des conditions de vie et de guerre épouvantables depuis 10 à 20 ans, et qui, pour l'instant, mettent en échec de très grandes armées. Et ce qui pourrait nous inquiéter, c'est les conclusions que vont en tirer un certain nombre d'acteurs hostiles à l'Europe et aux États-Unis.
Voilà, c'est la fin de la première partie de cette conversation. Dans la deuxième partie, nous commençons à parler beaucoup plus spécifiquement du lien entre géopolitique et les enjeux climatiques et écologiques. Je vous invite donc à poursuivre dans le deuxième épisode.